VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition, il est 19h30 temps universel, édition du jeudi 30 novembre 2017 en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, fin du sommet Union africaine-Union européenne, nous ferons le point sur la rencontre. Cameroun, deux policiers ont été tués en zone anglophone au lendemain de l'assassinat de 4 militaires. Des responsables de l'opposition ont été interpellés avant d'être relâchés à Kinshasa lors d'une marche interdite par les autorités. Ne ratez pas dans 10 minutes la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Fin du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, les deux blocs recommandent la mise en place des forces spéciales dans chaque pays pour lutter contre les trafiquants d'êtres humains et la saisie de leurs comptes bancaires. Le point sur place avec Narita Namasté.
Premier succès de ce sommet, la question de la migration en Libye, dont 3800 migrants ouest-africains ont été localisés et doivent être rapatriés avec l'aide du Maroc qui a déjà affrété des avions. La France et l'Allemagne devraient appuyer ce rapatriement. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamat Fakhi, entre 400 000 et 700 000 migrants sont repartis dans 42 camps en Libye. Le diplomate tchadien appelle à des mesures urgentes pour que tous ces migrants rejoignent leur pays. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a relevé que la croissance économique impressionnante en Afrique durant la dernière décennie était insuffisamment inclusive. Plus de 700 millions d'Africains ont moins de 25 ans. Soit 60% de la population du continent. Des centaines de milliers de jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives tentent d'immigrer vers l'Europe chaque année. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, estime que quelque 3800 migrants africains en Libye doivent être rapatriés d'urgence. Venant majoritairement de l'Afrique de l'Ouest, ces migrants ont été recensés dans des camps près de Tripoli, vivant dans des conditions inhumaines. M. Faki indique que le gouvernement libyen compte 42 camps ou centres de détention des migrants estimés entre 400 000 et 700 000 en Libye. Au Cameroun, deux policiers ont été tués au cours de la nuit de mercredi à jeudi dans le sud-ouest du pays, en zone anglophone. Le gouvernement attribue ces meurtres aux séparatistes, nous dit depuis Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap.
C'est la première fois que les policiers camerounais sont tués en zone anglophone depuis le déclenchement de la crise dite anglophone. L'épicentre de l'attaque a été le lieu dit Otu Border, dans le département de la Manyu, où 4 militaires ont été égorgés dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Lors d'un contrôle de routine, un groupe d'assaillants, rapporte des sources de sécurité, est sorti de la pénombre et a pris à partie une patrouille mixte de policiers et militaires camerounais. Deux policiers ont trouvé la mort, un s'est blessé, ainsi qu'un militaire grièvement. La région du sud-ouest enregistre en 24 heures 6 morts parmi les rangs des forces de défense et de sécurité. Cet après-midi à Boya, chef-lieu du sud-ouest, les hélicoptères ont survolé le ciel à basse altitude, ont témoigné des populations à VOA Afrique. Le ministre de la Communication du Cameroun a déclaré que le gouvernement camerounais avait déjà pris les mesures appropriées pour en découdre avec les séparatistes. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Violence au nord-est du Nigeria. Trois enfants âgés de 5 à 8 ans ont été tués par un inconnu armé d'une machette dans une école primaire. L'attaque s'est produite à l'heure de la récréation. La police soupçonne un déséquilibré d'un village voisin. Dans le nord-est du Nigeria toujours, Boko Haram a mené hier soir en raid sur le village de Wanou. Ils ont tué deux personnes, brûlé des maisons et des récoltes d'après les autorités. Les attaquants sont arrivés en bordure, de la bordure de la forêt de Sambisa, bastion du groupe djihadiste. Concernant la lutte contre le terrorisme, une réunion internationale aura lieu le 13 décembre à Paris pour accélérer le déploiement de la force G5 Sahel, comprenant le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Le président français estime que la mise en place de la force n'avance pas assez vite et que les terroristes ont enregistré des victoires militaires et symboliques, notamment au Niger. Il est urgent de renverser la tendance, a précisé l'Élysée. La France envisage aussi de convier l'Arabie Saoudite. Saoudite à cette réunion. Mauritanie, 5 membres d'organisations de veuves et d'orphelins de militaires négro-mauritaniens, objet d'exécution extrajudiciaire en 90, ont été interpellés mardi et étaient toujours en détention aujourd'hui, c'est ce qu'a indiqué le Forum national des droits de l'homme. Les 5, 3 femmes, des veuves et 2 orphelins, ont fait l'objet d'un interrogatoire sur leur intention, leur signifiant que leur mouvement n'était pas autorisé, affirme l'organisation. Des milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues de la capitale togolaise, Lomé, pour un deuxième jour consécutif à l'appel de l'opposition. Les manifestants demandent depuis 3 mois une limitation rétroactive du mandat présidentiel et la démission du président Faure Gnassingbé. M. Gnassingbé a fait savoir la semaine dernière qu'un dialogue avec l'opposition devra avoir lieu d'ici à quelques semaines. République démocratique du Congo, les marches de l'opposition pour dire non au calendrier électoral et au régime de Joseph Kabila ont été dispersées par la police à Kinshasa et dans de nombreuses villes du pays. Et des leaders de l'opposition et des militants ont été arrêtés. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Kinshasa a jusqu'en début d'après-midi ressemblé plutôt à une ville morte. Écoles, magasins, boutiques et autres commerces sont restés fermés, la circulation très timide. Remarquable par contre, une importante présence des éléments de la police dans tous les coins chauds et principaux carrefours de la capitale de la RDC. C'est justement la police qui a quasiment étouffé dans l'œuf la marche du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Félix Tshisekedi, le président de cette plateforme politique de l'opposition, n'a pas pu sortir de sa résidence de Limété, encerclé par un important dispositif policier. Des agents de l'ordre qui ont d'ailleurs, à coups de gaz lacrymogène, dispersé des jeunes qui s'étaient amassés devant la résidence de leur leader. Martin Fayoulou et Jean-Marc Kaboun, qui ont tenté de manifester avec quelques militants, ont été aussitôt arrêtés. Martin Fayoulou et Jean-Bertrand Ewanga, jouissant de leurs immunités parlementaires, ont été libérés, mais pas le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Joséphine Kama, mère du président du Gabon, Ali Bongo, a été déboutée par la justice française d'une action contre l'écrivain journaliste Pierre Péan pour atteinte au droit au respect de la vie privée. Pierre Péan a contesté la filiation biologique entre Ali Bongo et Joséphine Kama. Elle réclamait la condamnation du journaliste, mais a perdu ce procès.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Theresa May, Premier ministre britannique, affirme que le président américain, Donald Trump, a commis une erreur en retweetant des vidéos contre les musulmans véhiculées par un groupuscule de l'extrême droite britannique. Donald Trump a aussitôt répondu. Les précisions de Jacques Aristide.
Ne vous occupez pas de moi, occupez-vous du terrorisme islamique radical destructeur qui sévit au Royaume-Uni, écrit le président Trump en réaction aux critiques pour avoir partagé sur son compte Twitter des vidéos anti-islam. Sortant de sa réserve, la chef du gouvernement britannique a rappelé qu'elle se consacrait pleinement à la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Theresa May a reconnu qu'il existait des liens privilégiés entre Londres et Washington, mais que cela ne signifiait pas qu'il fallait avoir peur de s'exprimer lorsque les États-Unis avaient tort. Plusieurs députés britanniques ont demandé à Mme May d'annuler l'invitation faite au président Trump à effectuer une visite d'État au Royaume-Uni. Les vidéos ont été initialement mises en ligne par Jada Franson du groupe d'extrême droite Britain First. Elle a été récemment condamnée pour l'agression d'une femme musulmane. Parmi ces vidéos, celle censée montrer l'agression d'un jeune homme par un migrant musulman ne représente en fait qu'une bagarre entre deux adolescents d'une petite ville hollandaise, l'agresseur n'étant ni migrant ni musulman. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a estimé que la véracité des vidéos n'était pas le sujet, soulignant que la menace était réelle.
Selon le Washington Post et le New York Times, la Maison-Blanche envisage de remplacer Rex Tillerson à la tête de la diplomatie américaine par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Cela fait plusieurs semaines que les médias américains annoncent le départ de Rex Tillerson. Le chef de la diplomatie américaine a par ailleurs réitéré ce jeudi l'appel à la Chine afin qu'elle coupe ses livraisons de pétrole à la Corée du Nord, estimant qu'il s'agit de la meilleure arme pour encourager les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen. Yémen, le chef des rebelles houthis menace l'Arabie Saoudite de représailles en cas de poursuite du blocus. Nous savons très bien quelles cibles causeront une grande souffrance, a-t-il ajouté. L'Arabie Saoudite, qui dirige depuis mars 2015 une coalition anti-rebelle au Yémen, a renforcé son blocus autour de ce pays après le tir par les houthis d'un missile balistique qui a été intercepté le 4 novembre au-dessus de l'aéroport de Riyad. Le pape fait escale au Bangladesh. François a appelé la communauté internationale à agir pour résoudre la crise humanitaire des Rohingyas. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Eric Manirakiza, la Minute Éco.
Les échanges commerciaux ont chuté de près de 16% entre les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est et le reste du monde pour la deuxième année consécutive. Le commerce est tombé à plus de 44 milliards de dollars en 2016, loin de 55 milliards enregistrés en 2015. Ce ralentissement est essentiellement dû à la chute des prix des produits d'exportation. Les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique de l'Est ont également diminué à 4 milliards de dollars en 2016. Le Cameroun a enregistré une augmentation des recettes fiscales d'environ 70% entre 2011 et 2016. Ces recettes non pétrolières sont estimées à 1 615 milliards de francs CFA. D'après le ministère des Finances, les réformes menées par l'administration fiscale ont modernisé les services, sécurisé les recettes et simplifié les procédures. Il faut aussi ajouter la taxe d'hébergement dans les hôtels, celle sur toutes les communications électroniques et enfin la création des centres spécialisés des impôts pour les petites et moyennes entreprises. Enfin, le Kenya veut se doter d'une autoroute de 530 km pour relier un port prévu sur la côte nord de Nairobi. Les travaux devraient débuter mi-2018 et dureront 4 ans. Ce réseau connectera aussi le Kenya au Soudan du Sud et l'Éthiopie. Nairobi vise à devenir le centre régional du commerce et du transport pour atteindre des pays enclavés comme le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Éveillé d'armes à Moscou avant le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018.
Eh oui, le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde en Russie se fera demain à Moscou à partir de 15h temps universel à travers un système de tête de série assorti d'une contrainte géographique. Le trophée sera présenté par Miroslav Klose, champion du monde 2014 et meilleur buteur historique des Coupes du Monde avec 16 buts à son actif. La présence de Maradona est aussi à relever. On rappelle 4 chapeaux, chacun comporte 8 équipes déterminées sur la base du classement FIFA d'octobre des nations qualifiées. Le premier chapeau, c'est celui des têtes de série. Il comprend 7 nations les mieux classées, ainsi que la Russie. On retrouve l'Allemagne tenante du titre, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique, la Pologne et la France. Chacun des 4 chapeaux sera tour à tour vidé pour placer les membres dans l'un des 8 groupes de 4 équipes. On rappelle qu'il y a une contrainte géographique. 2 équipes d'une même confédération ne peuvent se retrouver dans le même groupe, sauf celle de l'UEFA, à raison de 2 maximum par groupe. Le chapeau numéro 2 avec l'Espagne, le Pérou, la Suisse, l'Angleterre, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay ou la Croatie. Le chapeau numéro 3, Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Égypte, Sénégal et Iran. Chapeau 4, la Serbie, le Nigeria, l'Australie, le Japon, le Maroc, le Panama, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite.
En Angleterre, Manchester City, toujours solide leader.
Au bout du temps additionnel, Raheem Sterling a offert à Manchester City sa 12e victoire de rang en championnat contre Southampton de Buzyn. Manchester City conserve 8 points d'avance sur Manchester United. Grâce à sa courte victoire contre Swansea, 1-0, Chelsea reste 3e de la Premier League devant Arsenal, vainqueur 5-0 de Huddersfield.
En France, le PSG est aussi largement en tête de la Ligue 1.
Grâce à des buts de Neymar et Cavani, le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur d'un match compliqué contre 3, victoire 2-0. Paris creuse son avance en tête du championnat, 10 points d'avance sur Marseille, qui grâce à sa victoire 3-0 à Metz, chippe la 2e place à Monaco, battu 1-0 à Nantes.
Et enfin NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State a souffert face aux Lakers avant d'arracher la victoire en prolongation, 127 à 123, tandis que Houston s'est offert une sixième victoire d'affilée face à Indiana, 118-97. Grâce à 41 points de LaMarcus Aldridge, San Antonio bat Memphis 104 à 95. À l'Est, New York a renoué avec la victoire après 4 défaites de suite en battant Miami 115 à 86.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. En avril dernier, l'Organisation internationale pour les migrations avait dénoncé l'existence de marchés d'esclaves en Libye, où des migrants subsahariens étaient vendus entre 200 et 500 dollars dans un parking à Saba. Nathalie Barge a joint Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM, qui rappelle également l'ampleur de la traite des êtres humains dans le monde.
Je pense que la chose importante, c'est que de nos jours, des faux news, fake news, on a besoin d'évidence. Et ce que nous avons décrit, c'était la vérité, c'est évident. Mais il fallait plus que ça. Il fallait le travail extraordinaire, franchement, des journalistes de CNN qui ont trouvé des vidéos et faire preuve eux-mêmes, retournant et trouver des marchés des esclaves. Il y a la Commission européenne qui est prête à nous aider. Et je pense que tout de suite, il y a un mouvement politique qui va agir, qui va nous aider à changer la situation de base.
Est-ce que vous espérez, à travers ce cas particulier, finalement, que dorénavant, les leaders de ce monde soient plus vifs, plus attentifs par rapport à toutes ces questions de la traite des êtres humains?
Je pense que la traite des êtres humains, c'est un grand problème et c'est caché même dans les pays développés. Ce que nous avons ici en Libye, c'est des marchés ouverts où quelqu'un peut aller dans une ferme quelconque et trouver et acheter un être humain. La traite des êtres humains, c'est aussi quelque chose d'horrible, mais c'est plus difficile à changer et à arrêter. Les problèmes sont chez nous, dans tous les pays, pas seulement en Libye, mais dans tous les pays africains et tous les pays développés aussi. Et finalement, ce n'est pas une question de faire blâme sur quelqu'un d'autre dans un autre pays. Il faut régler les affaires chez toi.
Vous avez parlé du marché caché de l'esclavage, on peut parler de l'exploitation sexuelle, et vous l'avez dit vous-même, ce qui est vrai, les pays développés, les pays dits riches, sont très concernés par cette question. Ici, est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants des pays occidentaux font vraiment ce qu'il faut pour que l'on n'exploite pas des enfants sexuellement de manière tout à fait cachée?
Ils prioritisent tout ça, ça c'est évident, mais s'ils font assez, je pense pas. Mais je pense que le grand public ne supporte pas l'évidence qu'il y a de l'esclavage humain de nos jours. Et ça, c'est une détermination d'arrêter ce qui se passe en Libye et après ça, ce qui se passe dans les pays du Nord et dans les pays du Sud.
Donc, selon vous, la Libye pourrait finalement être un cas déclencheur d'autres cas tout aussi graves?
C'est ça mon opinion. C'est le fait que tout le monde a vu l'évidence qu'il y a des choses publiques, qu'il y a des êtres humains qui sont vendus en public. C'est juste incroyable.
Leonard Doyle, le porte-parole de l'OIM, un entretien que vous pouvez retrouver dans Le Monde au féminin samedi 19h temps universel pour une édition consacrée à l'esclavage.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans quelques années, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, aura sa première ligne de métro. Le coup d'envoi des travaux en vue de la réalisation de ce projet a été donné ce jeudi par le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron. À Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
Près de 1 milliards de francs CFA, c'est ce que va coûter le premier métro de la ville d'Abidjan. En donnant ce jeudi le coup d'envoi des travaux de ce projet colossal, le président français Emmanuel Macron a indiqué que la France n'avait jamais auparavant financé un projet d'une telle ampleur à l'étranger.
Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Je veux remercier les entreprises françaises, les financeurs français qui sont engagés derrière vous à vos côtés. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Mais avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger.
Quant au président ivoirien Alassane Ouattara, il se réjouit déjà des répercussions de ce projet.
Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an.
La nouvelle ligne de métro sera longue de 37,5 km et partira de la commune d'Anyama dans le nord d'Abidjan pour arriver à Port-Boué dans le sud en zone aéroportuaire. Elle desservira une vingtaine de gares, traversera les communes d'Abobo, Adjamé et Trècheville, ce qui devrait permettre de transporter jusqu'à 500 000 passagers par jour. Au sein de la population abidjanaise, le démarrage des travaux en vue de la mise en marche de ce métro est une bonne nouvelle.
Non mais c'est une très bonne initiative et ça n'arrange que tous les Ivoiriens. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés pour se déplacer à Abidjan. Hein. Oui, tout à fait, il y a beaucoup de difficultés, surtout avec les minicars, donc il y a toujours les bouchons. Et avec ces trains-là, vraiment, on pourra vaquer facilement à nos occupations. Et puis bon, ben voilà.
C'est quelque chose qui va permettre aux Abidjanais de circuler sans beaucoup de difficultés. Je pense que c'est d'abord là l'objectif à atteindre, parce qu'il y a tellement d'embouteillages maintenant et les déplacements sont difficiles. Mais au-delà de ça, en tout cas, j'espère que ça va donner de l'emploi aux Ivoiriens, parce que c'est ce qui est important.
Les travaux sont menés par des groupes français, Bouygues pour le génie civil, Keolis pour l'exploitation et Alstom pour le matériel roulant. Les travaux vont durer 4 années. Les Abidjanais pourront emprunter leur premier métro en 2021. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La Foire internationale de Lomé s'est ouverte vendredi dernier. Pour cette édition, l'événement se veut non seulement une rencontre commerciale, mais aussi de partenariat entre opérateurs économiques avec, en toile de fond, le digital. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Seuls 5% des entreprises togolaises opèrent dans le secteur du numérique. Un chiffre très bas pour un pays qui veut faire de l'économie numérique un axe prioritaire de développement, ce qui a poussé le Centre togolais des expositions et foires CTF à organiser la 14e Foire internationale de Lomé sous le thème « Le numérique au service des affaires ». Pour que le numérique puisse vraiment se mettre au service des affaires, certains préalables sont indispensables, estime Honoré Fiadjo, conseiller au ministère de l'économie numérique.
Des lois ont été votées pour encadrer le secteur. Il faut renforcer ces lois, notamment dans le cadre de la cybersécurité et lutter contre la cybercriminalité. Il faut passer maintenant à la dématérialisation des données, des documents et procédures administratives. Il faut mettre en œuvre la signature numérique pour donc faire en sorte que les paiements puissent se faire en ligne, faire en sorte qu'on puisse procéder aux démarches administratives en ligne. Je crois que c'est des postures challenges pour faire en sorte que le numérique devienne vraiment un outil au service des affaires.
Le numérique est un outil qui peut aider à faire prospérer les affaires. Chinette Aouvé, responsable d'une start-up, en est convaincue, mais assure que la réputation sur la toile serait sa première bataille.
Ce que l'Internet peut nous permettre de faire avec les affaires, l'Internet peut essayer de donner une image à nous. En tant qu'entrepreneur avec le numérique, je vais essayer de me donner une identité en ce qui concerne les activités de la communication. Je vais chercher des informations qui me concernent pour essayer de donner une image pour que cette image que je vais essayer de transmettre sur le web ou bien sur l'internet ne soit pas une image bafouée, mais une image qui peut être profitable pour moi.
Un salon du numérique se tient en marge de ce rendez-vous commercial de Lomé avec au programme diverses conférences thématiques. Tatienne Sosuga, présent à la Foire internationale de Lomé, vient de suivre une conférence sur l'identité et la réputation numérique.
Moi, j'ai pu retenir que les publications sur les réseaux sociaux nuisent à notre réputation. Au lieu de mettre votre propre nom, vous mettez des noms bizarres. Ça nous ennuie quoi, dans notre réputation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le numérique qui est à la base de toutes choses. Avec ça, on peut prospérer dans les affaires.
Du 24 novembre au 11 décembre 2017, la plus grande fête foraine du Togo se met au rythme du digital pour permettre aux opérateurs économiques de se familiariser avec cet outil qui est devenu incontournable dans le monde des affaires. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
L'utilisation des médias sociaux a considérablement augmenté ces dernières années et bouleverse les médias traditionnels. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques préfèrent utiliser les réseaux sociaux pour passer directement leurs messages aux électeurs. Y a-t-il un risque de manque d'analyse ou de dégradation de la parole politique? Claire Morin-Gibourg a joint le directeur général de l'École supérieure de journalisme et des métiers de l'Internet à Dakar, Amadou Tidjansi.
En Afrique, en Gouma, disons, si vous comparez à ce qui se passe ailleurs dans le monde, par exemple Donald Trump, mais avant lui surtout Barack Obama, qui reste encore, je crois, le compte Twitter le plus suivi. Si vous comparez cela, bon, l'Afrique est figure de petit poussé. Mais c'est également en rapport avec la pénétration Internet, avec les taux de validation. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, qui font que, voilà, les chefs d'État africains, y compris ceux qui sont les plus actifs, sont avec des comptes, je crois, les deux ou trois qui dépassent le million sont en Afrique de l'Est. Paul Kagame, qui est très actif, qui a pendant longtemps été une sorte de leader, qui parlait beaucoup avec ses concitoyens ou d'autres intervenants sur la twittosphère. Exemple assez intéressant, 4/5 de ses tweets étaient des réponses à des tweets qu'il était adressé. Donc lui, il y avait là vraiment un désir de communication, d'échange, pas simplement d'envoyer des tweets ou juste de communiquer. Pour le reste, est-ce que c'est juste un petit engouement? Comme je dis toujours, il faut comprendre les enjeux derrière et maîtriser l'usage. Ça, c'est peut-être la clé, souvent le plus difficile. Et pour nombre de chefs d'État, on a vu un certain nombre de bourgs qui prouvent que les outils ne sont pas maîtrisés ou alors que les enjeux ne sont pas très bien compris.
Quel genre de bourde, par exemple?
Un community manager d'un président qui poste un poste complètement déplacé, ou bien le community manager de deux personnalités qui prend le compte de l'un pour l'autre. Je crois que ça s'est passé entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et ici au Sénégal, une fois, on a vu le community manager du président poster quelque chose qui ne nécessitait pas un tweet présidentiel.
Et pensez-vous que cela conduit à un manque, à une perte d'analyse journalistique?
Oui, moins d'analyse, d'une petite boutade que j'aime lancer en disant que le scoop est mort, Twitter l'a tué. Parce qu'effectivement, si vous suivez des présidents comme celui du Burkina, Marc-Christian Caboret, vous voyez que par exemple, il a tendance à envoyer ses tweets directement. L'autre chose, c'est que les services de présidence, un certain nombre de gouvernements, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, ont des comptes gouvernementaux où ils tweetent directement l'information. Mais je crois au contraire, ça pose un défi pour les journalistes, ça leur demande de faire plus justement que des comptes rendus, que le président a nommé un premier ministre, que le président a fait ceci. Au contraire, pour moi, ça devrait pousser les journalistes à aller plus dans l'analyse, dans les papiers de fond. Et je crois que si aujourd'hui il y a un grand engouement sur le journalisme d'investigation, sur le journalisme de données, je crois que c'est parce que justement les journalistes se disent qu'il nous faut pouvoir faire ce que les gens ne peuvent pas faire directement ou ce qu'ils n'ont pas intérêt à faire directement.
Amadou Tidjansi, directeur général de l'EGICOM, l'École supérieure de journalistes et des métiers de l'Internet à Dakar. Et c'est la fin de cette édition, à la mise en onde Michel Joseph, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends seront courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.